Alors, donc le Camp Action Climat, c'est une initiative qui est née dans les pays anglo-saxons, en Angleterre plus précisément. Ça a commencé en 2006. Et en France, des gens ont pris l'initiative de lancer un Camp Action Climat en 2009, été 2009, pour s'opposer au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et en 2010, pour préparer une action contre la raffinerie de Normandie, qui appartient à Total. Alors, les camps Action Climat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est parti sur une idée de mettre en œuvre une résistance contre les crimes climatiques et l'affairisme irresponsable qui va avec, par l'action directe. L'action directe de désobéissance. Ça se base sur l'idée de faire une alternative concrète sur place avec une faible empreinte écologique, une organisation horizontale, essentiellement basée donc, sur l'autogestion et tout ce qui va avec, je vais le développer. Il y a aussi la notion de, qu'on dirait aujourd'hui d'éducation populaire, même si elle n'avait pas été mentionnée comme ça à l'époque, c'est-à-dire de profiter du moment pour se retrouver, échanger, discuter avec tout ce que les participants au camp amènent, avec l'idée qu'il n'existe pas d'experts et que on n'a vraiment que ce que l'on ramène. Donc c'est vraiment l'idée d'une auberge espagnole. Sur les notions d'ateliers, de débats, d'informations. Et enfin, ça s'inscrit dans un cadre international de solidarité avec les autres mouvements de lutte sur les changements climatiques de par le monde. Notamment les initiatives des pays du Sud. Donc, le point fort des camps Action Climat, c'est en fait de créer des zones d'autonomie temporaire. Donc, sur ces trois mots, les trois sont importants. Donc, la zone, c'est vraiment en fait géographiquement en un lieu donné, délimité, donc le camp en lui-même, même si après ça s'inscrit dans un territoire et l'idée est de dépasser la zone du camp en termes d'impact. Donc l'autonomie, bon, je vais le développer au travers de cette présentation. Et enfin temporaire, parce que c'est sur quelques jours. Le premier, c'était sur une semaine, le deuxième, c'était sur 10 jours, donc été 2009, été 2010. L'idée du Camp Action Climat 2009, c'était donc de se poser sur un terrain prêté par un agriculteur à cette occasion. Pour donc avoir un maximum de personnes qui puissent venir se retrouver sur place et préparer une grande action directe contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui.
Alors, excusez-moi, mais est-ce qu'il serait possible de débarrasser après l'intervention parce que ça fait un peu trop de bruit. Voilà. Ça, on pourra mieux apprécier l'intervention.
Donc voilà, l'idée c'est d'organiser donc des actions, une grande action de masse pour faire du bruit et agir concrètement contre un projet, donc là en l'occurrence celui de Notre-Dame-des-Landes en 2009. Et ça s'était fait en fait dans les derniers jours du camp Action Climat en 2009. Donc le camp était vraiment fortement orienté dans la préparation de cette action. Et en 2010, comme ça s'était pas passé, la préparation de l'action avait pris une grande importance dans l'organisation du camp. En fait, la deuxième occurrence, donc c'était alors que le camp se tenait en été, au milieu de l'été, c'était préparer une grande action de masse, mais en octobre. Donc et alors pour la petite anecdote, c'était l'idée donc d'arriver en masse. Au niveau de la raffinerie et donc d'obliger Total en fait à stopper sa raffinerie en rentrant dans la raffinerie pour les contraintes par mesure de sécurité en stopper l'activité. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est arrivé pendant les manifs pour la retraite. Et donc, chose impensable, les ouvriers avaient arrêté la raffinerie avant qu'on arrive. Voilà. Donc, pour en revenir au camp Action Climat, donc l'autogestion, c'est une chose importante. Et quand il n'y a pas quelques personnes qui s'occupent pour vous de préparer le camp pour que vous puissiez poser votre tente et profiter des vacances pendant une semaine, et ben ça veut dire qu'il y a beaucoup de préparation à faire, beaucoup d'organisation, beaucoup de communication. Et donc, ça s'est en fait transformé comme l'idée, c'est d'avoir une organisation horizontale, donc qu'il n'y ait pas de, de leader, qu'il y ait un fonctionnement au consensus. C'est-à-dire que tout le monde discute de toutes les problématiques dont ils ont envie de parler et surtout de trouver le moyen d'agir, de s'organiser. Voilà, il faut trouver en fait d'autres modes de fonctionnement que ceux dont on a l'habitude de manière générale. C'est pas pour rien que c'est apparu en Angleterre et pas en France, parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup moins de grandes structures centrales comme en France, qui organise tout en amont, c'est beaucoup plus décentralisé, alors qu'en France, voilà, avec la culture jacobine, où tout est centralisé, tout est prévu en haut, voilà, c'est vraiment donc du coup tout un autre travail. Alors pour ce faire, l'idée c'était de faire des groupes de préparation plusieurs mois à l'avance, et donc de faire en sorte que les gens qui s'intéressent à la question se retrouvent. En AG, discutent des problématiques à faire et de créer en fait des groupes de travail suivant les sujets qui apparaissent pour régler les problèmes. Donc dans les groupes de travail qui apparaissent, c'est très varié. Ça va de, par exemple, préparer l'électricité, parce que l'une des spécificités du camp Action Climat, chose que j'ai pas vue ailleurs, c'est que pendant une semaine, on a été capable en fait de mettre en place un réseau de distribution d'électricité sur place, de mettre en place un réseau de distribution d'eau aussi. Donc voilà, il y a vraiment toute une infrastructure qui a été préparée, qui s'est mise en place. Voilà. Donc tout ça se prépare à l'avance. Donc pour faire une organisation horizontale, l'une des grosses problématiques, en fait, c'est arriver à la fois à faire en sorte que tout le monde participe, donc il faut créer, il faut susciter la participation, et d'un autre côté, pour arriver à susciter la participation, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que ce soit quelques personnes qui s'occupent de tout et qui gardent la mainmise sur les décisions. Donc là, les discussions au consensus sont importantes, et la manière du coup d'organiser les réunions est importante. Donc c'est comme ça en fait que il y a une grosse réflexion et aussi le fruit un peu de culture d'autres organisations qui existaient bien avant le camp Action Climat, où en fait par exemple pour distribuer la parole, pour demander la parole, pour organiser la réunion, on utilise des techniques avec des signes qui permettent par exemple pendant la discussion de pouvoir transmettre des messages sans avoir à parler et donc sans avoir à interrompre ou à faire du bruit qui perturbe la concentration de ceux qui écoutent et de ceux qui participent. Vous savez, par exemple, demander la parole, ou encore une chose très particulière qu'on ne voit pas ailleurs en général, c'est en fait on fait le signe un petit peu en tournant les mains pour exprimer son accord, au lieu par exemple d'applaudir. Parce que si toute la salle applaudit alors qu'on est en train de parler, ben, on ne s'entend plus et du coup ça coupe la discussion. D'autres choses aussi, c'est la distribution des rôles au sein de la réunion. C'est de faire en sorte en fait qu'il n'y ait pas un seul animateur du genre du président d'association qui anime la réunion, l'assemblée générale pendant les 3 heures et qui distribue la parole, qui compte le temps. Donc là, l'idée, c'est de distribuer les rôles, donc d'avoir quelqu'un qui fait le gardien du temps, d'avoir quelqu'un qui va distribuer les tours de parole, quelqu'un qui va prendre des notes, quelqu'un qui va faciliter, donc avoir une vision synthétique et faire attention à bien faire avancer la réunion. Et pour que tout le monde puisse voir un petit peu comment ça fonctionne, que ce soit fluide, d'une réunion sur l'autre, de faire tourner les rôles. très important. Comme ça, ça permet aussi de se rendre compte que bah, la personne qui a distribué la parole et puis qui m'a distribué la parole que deux fois la dernière fois alors que j'avais demandé plein fois, bah, le jour où je me retrouve à devoir distribuer la parole, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile et que voilà, c'est, ça ne se passe pas comme ça. Et donc du coup, c'est là qu'on voit, j'aime bien le rapprochement avec les scopes, c'est que ça change complètement le point de vue sur la question de l'organisation, entre simplement assister et voir un peu comment ça se passe, et devoir participer directement aux décisions et être partie prenante de l'organisation. On voit vraiment une grosse différence. Et quand on participe et qu'on a vraiment, on a vraiment réussi à mettre en place des fonctionnements très intéressants, où tout le monde s'est senti accepté, écouté, intégré. Et j'ai eu des retours de personnes qui assistent pour la première fois à une réunion de ce genre et qui étaient surpris par la capacité en fait, du groupe à intégrer ces personnes et la possibilité pour ces personnes de participer directement à des prises de décision alors qu'elles venaient d'arriver et qu'elles n'avaient pas forcément voilà, la légitimité entre guillemets, de le faire. Donc ça crée aussi de la légitimité pour tout le monde et en ça c'est vraiment un fonctionnement intéressant. Donc là j'ai parlé surtout des groupes de préparation un peu en amont, enfin du groupe qui avait préparé en amont. Pendant le camp Action Climat, le camp Action Climat c'est plusieurs centaines de personnes. Donc la grosse problématique c'était de trouver un mode de fonctionnement où on puisse fonctionner de manière horizontale à plusieurs centaines sur place pendant un camp. Et pour prendre des décisions qui sont aussi terre à terre que qui va s'occuper de vider les toilettes sèches tous les matins, comme simplement l'action, où est-ce qu'on va la faire, comment est-ce qu'on fait, donc les choses les plus importantes pour tout le monde. Donc les modes de fonctionnement, ça a été de diviser le camp en plusieurs quartiers et de faire en sorte en fait qu'il y ait le matin donc des AG de quartier où ils fonctionnaient voilà, sur ce processus, où toutes les questions qui devaient être traitées soient traitées. Et de le faire en AG de quartier, ça permettait en fait de restreindre le nombre de personnes à une réunion et donc de donner plus facilement la parole à tout le monde. Et ensuite, donc, il y avait une articulation qui était faite avec ce qu'on appelait l'AG de campement, où il y avait une ou deux personnes de chaque AG de quartier qui étaient mandatées pour venir discuter donc des points qui avaient été soulevés. Mais il y avait une double articulation aussi, c'est-à-dire qu'à ces AG de campement, il n'y avait pas seulement des représentants de chaque AG de quartier, donc de la réunion du matin, il y avait aussi en fait chaque groupe de travail thématique qui avait été donc créé. Donc ça peut être les groupes, comme je vous l'ai dit, de gérer l'électricité, ça peut être quelqu'un du groupe enfant, parce que les enfants aussi la problématique des enfants faisait partie d'un groupe de travail. Par exemple aussi la gestion des médias, la gestion des actions, enfin bon, tous ces groupes-là existaient et donc mandataient aussi quelqu'un à l'AG de campement pour que ça puisse fonctionner. Donc l'AG de campement faisait toutes les discussions, remontait les choses, s'il y avait des décisions qui pouvaient être prises à ce niveau-là, elles étaient prises. Si l'AG de campement n'était pas légitime, il y avait une délimitation en fait, un périmètre qui était fait en fonction de tels critères, si les décisions impactaient tout le monde ou si elles remettaient en cause des choses qui avaient déjà été décidées avant, ce n'était pas l'AG de campement qui en prenait la responsabilité, mais la question était posée aux AG de quartier. Et donc là, on se retrouvait aussi sur une problématique de timing, où en fait, on se retrouve avec des choses, des questions qui peuvent mettre en fait, deux jours à être traitées, à être soulevées et à être traitées. Donc en fait, on se retrouve vraiment sur des temps, des modes de fonctionnement différents. Voilà un petit peu pour cette démarche. L'une des autres choses aussi qui était importante dans l'animation de réunion et le fonctionnement du campement, je vous ai parlé d'organisation horizontale, c'était aussi de bien mettre le doigt sur toutes les questions de domination, toutes les questions en fait, d'inégalité de fonctionnement. Par exemple, tout simplement, pendant une réunion, il y a des gens qui ont des facilités à parler, des facilités à prendre la parole, et d'autres personnes qui ne le prennent pas. Typiquement, les hommes parlent beaucoup plus que les femmes, imposent beaucoup plus leur point de vue dans notre société. Voilà, c'est juste un angle des dominations possibles, puisqu'il y a d'autres axes qui se jouent. Mais il y avait vraiment cette préoccupation-là, cette réflexion, et on est loin d'avoir réussi à répondre à, toutes les pro- à tous les problèmes et d'avoir eu un fonctionnement, on va dire, idéal. Mais voilà, ça a permis pas mal de soulever pas mal de points et quand même d'arriver à faire tourner le camp. J'oublie à peu près la moitié de ce que je voulais dire. Donc ça, c'était un aspect. Alors, un autre aspect, c'était sur... je vais en profiter. En fait, j'ai ramené quelques brochures. Dans le fonctionnement du camp, entre autres, il y avait... Donc ça, c'est un livret d'accueil qui était distribué à tout le monde, tous ceux qui venaient participer au camp, qui fait donc une présentation du camp, du fonctionnement, des attentes, le programme politique, puisque c'en est un de vouloir s'opposer au crime climatique et de vouloir marcher de manière horizontale. Entre autres, justement, au niveau politique, il y avait la préoccupation d'être, d'avoir une démarche, j'ai envie de dire no logo, c'est pas français, mais sans étiquette. Donc, tous les participants venaient là à titre individuel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structure d'organisation politique, d'association qui était représentée au sein du camp. N'importe qui pouvait venir à titre personnel. Et donc, l'idée du camp Action Climat, c'était vraiment d'avoir de, aussi... De garder cette autonomie en laissant les orgas en dehors de l'espace du camp. C'est quelque chose d'important qui permettait justement de développer l'accent sur d'autres thématiques, d'autres axes que les habituels, enfin les questions qui peuvent revenir du coup avec les orgas. Donc après... voilà, ça c'est un peu le fonctionnement idéal. Dans les problèmes qui ont été rencontrés, ce qui me vient en tête, l'un des premiers, c'est que la passation du groupe de préparation, en fait, qui existait en amont du camp, qui sont des personnes qui ont pensé le camp sans le camp, en quelque sorte, puisque le camp n'existait pas, il n'y avait pas tous les gens et tout ça. Quand on se retrouve dans le camp, on est tout de suite sur un autre modèle de matérialisation. Une zone temporaire, avec des gens qui n'ont pas participé à la préparation, qui ne savaient pas forcément où est-ce qu'ils tombaient précisément, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit peu l'idée du programme, l'idée d'un fonctionnement horizontal, mais après, la mise en pratique, la méthode, c'est pas du tout intégré. Et l'une des grosses problématiques, en fait, ça a été de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles personnes qui participent aux différents groupes qui existaient. Par exemple, pour la mise en œuvre de l'électricité, eh ben, c'est les personnes qui avaient préparé, qui ont essentiellement fait tourner le réseau. Il y avait en fait des moyens de production concret. Pour l'électricité, donc on ne s'est pas branché sur le réseau d'électricité. Il y avait des panneaux solaires qui avaient été ramenés, deux éoliennes. Il y avait même un groupe électrogène qui était là en cas d'urgence, qui marchait à l'huile. Et il y a eu un atelier, entre autres, pendant le premier camp Action Climat, pour construire une éolienne en bois, avec des plans libres diffusés sur Internet. Et donc, l'une des problématiques, c'est ça, c'est que les différents groupes de travail n'ont pas été relevés, en quelque sorte, par des personnes. Et donc, les personnes qui ont pas mal participé à la préparation, en fait, se sont senties obligées, du coup, pour que tout continue à tourner, à travailler dans ces groupes, à s'investir. Et pour beaucoup, donc des personnes qui avaient déjà été actives, en fait, à être en surmenage pendant le camp. Donc voilà, ça c'est vraiment l'une des articulations qui est difficile à mettre en œuvre. Dans les autres problématiques, ça a été comme en fait on veut faire une zone autonome, on se retrouve avec une zone autonome, on veut rentrer en résistance par rapport au fonctionnement normal. Donc, c'est pas déclaré en préfecture, on n'a pas le soutien de l'État. Il n'est pas là pour venir nous dire c'est comme ça qu'il faut faire pour telle ou telle chose. Bien évidemment, il y a des choses qu'on avait en place. Par exemple, tout simplement, l'organisation du camp. Il y avait des allées qui étaient bien dégagées pour pouvoir permettre l'arrivée des secours, d'une ambulance, s'il y avait besoin. Parce que le camp, avec un camp avec plusieurs centaines de personnes, t'imagines bien que les tentes, au fond, sont difficilement accessibles. Voilà, ça c'était... Mais par contre... si on veut être autonome de l'État ou de certaines choses, Et bah, du coup, il faut pouvoir attraper les ressources par un autre endroit. Et donc, en fait, il y a eu un ancrage avec le local très important. Donc, du coup, le camp Action Climat a vraiment mis l'accent sur le contact avec les gens locaux, le contact avec les producteurs locaux pour pouvoir s'alimenter en nourriture. Voilà, une alimentation locale. Et voilà, donc il y a de la même manière pour pouvoir établir le réseau, réseau d'électricité, réseau d'eau, il fallait aussi trouver du matériel. L'autonomie au niveau de l'argent, c'est aussi quelque chose qui était pensé. Donc faire en sorte que tout le monde puisse venir et n'ait pas à débourser à l'arrivée au camp, je sais pas, un chèque de 100 euros pour pouvoir participer aux frais. Parce que tout le monde n'a pas 100 euros à mettre pour pouvoir être sur place pendant une semaine. Pour autant, il y a d'autres personnes qui en ont les moyens. En amont, il fallait préparer des choses, acheter du matériel. Donc, il y a des gens qui ont fait des prêts personnels. Et pendant le camp, en fait, on a fonctionné au prix libre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le prix libre, c'est simplement de dire, vous venez et vous accédez aux services ou aux produits, mais pas gratuitement, vous mettez le prix que vous voulez. Alors évidemment, la première difficulté, c'est, oui, mais combien ? Ça vous a coûté combien ? Moi, je peux mettre combien ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'on peut mettre moins que ce qu'il faudrait, comme ça, avec la masse, ça marche et ça suffit ? Donc, l'un des outils qui avait été mis en place, c'est le prix coûtant. En fait, on donne un prix indicatif de, on estime que, par exemple, le repas du midi, ça a coûté 2 euros. Donc après, vous mettez ce que vous voulez, en rappelant que, voilà, tout le monde ne payant pas forcément le prix, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui payent plus pour que ça fonctionne. Un autre outil qui avait été mis en place, c'était un indicateur, en fait, de l'état des finances. Ça n'avait pas été fait au début, ça a été fait plutôt au milieu quand on s'est rendu compte que, mal prix libre, ça ne faisait pas rentrer beaucoup d'argent au début. Et donc, en fait, il y avait une évaluation faite par le groupe finance de l'état des caisses, des dettes qu'il y avait, de comment ça se passait. Et donc, on avait mis en fait un petit indicateur, une échelle. Vert, tout va bien. Orange, c'est juste. Et puis, rouge, les caisses sont vides. Et donc, tous les jours, en fait, l'indicateur était adapté du coup, à la situation. Ça a permis du coup, aux personnes d'avoir un peu un retour. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans l'autogestion, dans les organisations horizontales, le problème, c'est aussi pour pouvoir prendre des décisions, de savoir où est-ce qu'on en est. Pas forcément au niveau de l'argent, mais juste d'avoir une vue sur comment ça se passe. Parce que si on n'a pas d'informations, on ne peut pas prendre de décisions qui aillent bien. Mais ça a été justement l'une des autres problématiques en fait, du camp, c'est comment est-ce qu'on fait passer les informations quand on a plusieurs centaines de personnes et qu'on n'a pas une organisation centralisée où on sait que c'est telle personne qu'il faut contacter parce que c'est elle la chef. Et ben, par exemple, pour les secours, ce qui avait été fait, c'était qu'en cas d'accident, si quelqu'un était blessé, malade, ça avait été simplement de dire on appelle les médics d'une voix forte et en fait on transmet l'appel en disant d'où vient l'appel. Et c'est comme ça qu'en fait, très vite, quand il y a un accident, et malheureusement il y en a eu un ou deux sur le camp, que du coup il y a besoin de savoir vite pour l'équipe médique qu'il y a un blessé ou une intervention à faire, et ben en fait ça s'est passé, c'était vraiment très, très surprenant la première fois. Quelqu'un crie médic, ça se fait, et vraiment très vite en fait, c'est très rapide, et beaucoup plus rapide justement que quelqu'un qui se met à courir pour aller prévenir l'équipe médique à l'attente. Donc ça, c'est l'une des choses qui marchait vraiment bien. Donc dans cette idée de communication, j'ai envie de dire en pair à pair. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pense que j'ai déjà vu pas mal de choses. De la même manière, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, si vous avez des questions.
Alors, Est-ce qu'il y a des questions sur le camp Action Climat ? Ah.
Oui, donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller au camp Action Climat, déjà il y a, donc, à Notre-Dame-des-Landes, celui du Havre. Et il me semble qu'il y a eu, au niveau de l'alimentation, vous êtes, procuré pas mal d'alimentation locale, je ne me rappelle plus de ce que j'avais dit. Et est-ce qu'il y a eu une suite, surtout après le camp Action Climat de Notre-Dame-des-Landes, je crois qu'il y en a une, qui est d'actualité aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que tu voulais poser comme question sur l'alimentation ?
Non, parce que l'alimentation, vous fournissiez au niveau local, je crois un peu partout aussi, après des producteurs locaux. Et après, ma deuxième question, c'était aussi, il y a eu une suite, est-ce qu'il y a eu une suite au camp Action Climat, Notre-Dame-des-Landes ? Parce que j'ai entendu de l'actualité là-dessus, à ce niveau-là.
Alors, oui. En fait, l'idée du camp Action Climat, c'est pas seulement de faire le camp sur place et puis après tout le monde s'en va et c'est fini. C'était vraiment, j'ai probablement pas fait assez l'accent là-dessus, donc l'organisation pendant le camp de différents ateliers, pour transmettre des compétences, des savoir-faire, des savoir-être entre tous ceux qui venaient. Et donc l'idée du camp Action Climat, c'est d'essaimer, c'est-à-dire de montrer qu'il y a d'autres moyens d'agir, il y a d'autres moyens d'exister aussi, et que c'est très bien s'il y a d'autres personnes du coup, qui peuvent le reprendre à leur compte et faire un camp Action Climat ou faire d'autres types de camps. Et en fait, en été 2011, en fait, il n'y a pas eu de nouveau camp Action Climat. J'ai tendance à penser que s'il n'y en a pas eu, c'est parce que c'était l'année où il y avait donc le G8 et le G20 qui étaient organisés en France, et que donc du coup les énergies sont focalisées sur l'opposition, donc à ces contre-sommets. Donc ça dépasse la problématique juste du changement climatique. Et il y a eu au moins un camp qui avait été fait au Havre, justement, en banlieue, pour reprendre le même type de... voilà, le même type d'initiative. Donc ça a eu lieu et je crois que c'est l'été dernier, il y avait eu la même chose sur la ZAD, donc la zone où doit être construit le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes. Donc voilà, il y a eu un autre village qui s'est posé aussi là-bas. Et puis cette année, j'imagine que pas mal de gens ont entendu parler. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler de ce projet, et puis du fait qu'il y a eu un appel en fait à occupation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes suite au camp Action Climat 2009. Donc c'est pas forcément le camp lui-même qui a lancé les choses, mais ça a permis de cristalliser cette résistance. Donc pas mal de gens ont appelé à occuper les maisons, à construire des cabanes dans les bois. Donc au fur et à mesure pas mal de lieux se sont retrouvés occupés. Et ces dernières semaines, l'État s'est organisé pour expulser pas mal de ces lieux autogérés. Il y en a aussi normalement une dernière vague qui doit se faire ce week-end ou lundi. À nouveau pour expulser des habitations sur place avant la trêve de l'hiver qui commence en novembre. Sinon, des camps de ce genre, des camps Action Climat, il y en a partout, il y en a eu pas mal en Europe en fait depuis 2006, il y en a eu beaucoup. Et je ne sais pas si d'autres personnes ont connaissance d'initiatives qui sont reprises sur ce genre de modèle.
Là, j'ai vu demain, toi aussi. Alors, il y a trois questions de filles. Alors, la jeune fille avec le t-shirt rouge. D'accord. Alors. Alors. Thank you. T'as une question aussi ? D'accord, alors. Oui, en fait, j'avais juste une petite question. En fait, vous organisez quand même des actions et je voulais savoir, est-ce que vous assurez que vous n'êtes pas infiltré ou est-ce que ça n'a pas...
J'ai pas entendu le mot.
Est-ce que vous vous assurez que vous n'êtes pas infiltré, qu'il n'y a pas de personnes qui viennent pour essayer de savoir ce que vous faites pour contrer vos actions ?
Alors, en fait, l'initiative, dès le début, s'est voulue complètement ouverte. Comme l'idée c'est de faire des actions de masse, d'avoir une organisation horizontale, d'avoir un mode de fonctionnement où tout le monde puisse prendre sa place, ça a été clairement pensé en disant s'il y a des infiltrations, qu'ils viennent, de toute façon on va s'organiser comme ça. Donc de manière générale, sur l'organisation du camp, sur tout le fonctionnement, tout ça c'est complètement ouvert. Il y avait juste, en gros, sur le deuxième camp, il y a eu deux choses qui se sont faites de manière plus confidentielle. C'était pour la préparation du camp, comme on n'avait pas d'autorisation, on n'avait pas demandé d'autorisation pour occuper un terrain, et qu'on n'avait pas un propriétaire qui s'était déclaré ou qui était d'accord pour prêter son terrain pour poser le deuxième camp Action Climat du côté du Havre. Donc il y a un groupe de préparation qui, c'est à quelques-uns en fait, qu'ils ont fait les repérages et regardé un petit peu où est-ce qu'on pouvait poser le camp, ce de manière donc secrète, et pour faire en sorte que que les autorités ne prennent pas les dispositions nécessaires pour nous empêcher de nous poser au dernier moment. Et en plus, ce qui nous a surpris, c'est que ça a vraiment bien marché, dans le sens où ils ont eu l'information que au moment où on s'est posé, et même quelques heures avant, ils ne savaient pas encore où on allait poser. Et ce qui m'étonne le plus, c'est même pas tant ça, c'est que il n'est pas identifié, en fait, parce qu'il n'y avait pas 36 terrains qui correspondaient à tous les besoins qu'on avait pour le camp. Et bon, même ça, en fait, ils n'avaient pas identifié les terrains où on pouvait qu'on aurait choisi. Mais voilà, de manière générale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup pensé, discuté pendant les réunions, avec un peu la crainte du policier infiltré, tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, rien que l'existence de ça, si on s'arrête à ça et qu'on prend peur, on ne fait rien et du coup, c'est contre-productif. Et de l'autre manière, faut simplement faire les choix après qui font que on peut prendre le risque de ça dans des réunions ouvertes. Et puis, si c'est des choses qui sont plus confidentielles ou plus sensibles, choisir à quelques-uns un groupe affinitaire. Mais de toute façon, même le groupe affinitaire ne peut pas garantir en lui-même qu'il n'y a pas un infiltré ou un indique dans le... Donc, en fait, la question ne mérite à peine d'être abordée. C'est juste, ce que je veux dire, c'est que faut juste après limiter le nombre de personnes qui sachent telle information si c'est vraiment important pour l'organisation.
Alors, une autre question ?
Et bien justement, tu viens tout juste d'aborder un sujet sur lequel je voulais poser une question. Le terrain, justement, comment vous arrivez à fonctionner pour trouver des terrains et surtout, est-ce que vous avez envie de pérenniser ça et est-ce que la question d'être propriétaire d'un terrain pour vous se pose ? Est-ce que...
Pour la pérennité, justement, en fait, le fonctionnement du camp, comme c'est une zone d'autonomie temporaire, du coup, c'est juste l'idée d'occuper le terrain à un instant T. Donc là, c'était pour quelques jours. Il y a évidemment la préoccupation de laisser le terrain tel qu'on l'a trouvé. Donc il y a toute la préoccupation de, pendant toute la tenue, c'est ne pas abîmer le terrain, de ne pas laisser de cochonneries dessus quand on a fini. Mais derrière, pour le choix, c'est clairement des problématiques logistiques. C'est simplement la taille, les accès, enfin toutes ces choses qui sont importantes en fait pour réunir plusieurs centaines de personnes au même endroit et pouvoir poser des tentes.
Finalement, en fait, l'accès n'est pas forcément autorisé et il vous arrive aussi bien de louer un terrain comme de temps en temps, en fait, occuper un espace sans justement rendre des comptes.
Bah, en fait, pour ce qui concerne le camp Action Climat en France, il n'y en a eu que deux. Et la première fois, il a été prêté et la deuxième fois, on s'est posé sur un terrain arbitrairement. Bah, la première fois, ça a posé problème. Le propriétaire nous l'avait prêté. C'était un champ d'exploitation, un herbage. La problématique qu'il avait, c'est qu'en fait, comme il bénéficiait des subventions européennes, il avait le droit pour son terrain, en fait, à, je crois, c'était 2 semaines d'un usage autre que de production agricole. Et que si jamais en fait il faisait plus de 2 semaines autre chose avec son terrain que ça, en fait il perdait ses subventions. Donc il y avait cette contrainte, c'était que on se pose et on est là que 2 semaines et on libère le terrain le dernier jour sans faute. Et l'autre problème en fait, c'est que comme c'était une exploitation agricole avec des vaches, en fait il y a quelque chose qui est les chiens n'étaient pas admis au premier camp Action Climat. Ça avait été annoncé. Le truc, c'est qu'il y a quand même eu des chiens. Après, quand il commence à y avoir plusieurs chiens au même endroit, il y a un effet de meute, tout ça. Il y avait vraiment ce risque, en fait, que, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, qu'il y ait un chien ou plusieurs chiens qui aillent embêter les vaches, quoi. Donc, c'était un truc qui était... Il y a vraiment après des spécificités sur le ici et maintenant, des contraintes par rapport au terrain, par rapport à différentes choses.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? En tout cas, merci beaucoup Christophe pour la présentation du plan Action Climat.